China's fault.
Come on. There's not another serious scientist in the world who thinks it's going to be over soon.
We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. He has the he has the ability to lock himself up. I don't know. He's obviously made a lot of money someplace.
Come on. Joe Biden. Come on.
Avec ta scène avec nous. Just make some money someplace.
Ah, écoute, moi, je trouve Joe Biden pathétique. Je veux qu'il batte Donald Trump.
Oui.
Mais c'est un choix pathétique. Le monsieur, là, qui a le dentier lousse, c'est ridicule son affaire, là. Come on!
L'as-tu entendu?
Non, c'est pas à cause
oui,
de ça.
Vrai,
ça ça me dérange pas.
Non, mais
l'as-tu entendu 5-6 fois, au lieu de compléter sa pensée, au lieu d'affirmer une donnée ou des faits, il lâche un « come on! »
Oui,
comme s'il y avait rien à dire.
Oui, puis quand Trump l'accuse, il rigole.
Mais oui.
Parce qu'à un moment donné, il faut répondre aussi.
Ben, c'est ça, oui, je suis d'accord.
Et là-dessus, moi, j'ai pas trouvé que... Je l'ai trouvé moins fort que d'une certaine manière qu'à l'autre débat. Mais d'autre part, concrètement, sur le fond, il a pu exposer ses idées cette fois-ci. Puis il y avait des solutions concrètes sur à peu près tout. Tu sais, par exemple, sur la façon dont il allait lutter contre la COVID-19, ils disent, on va dire aux gens de garder 6 pieds de distance, porter un masque, on va mettre du plexiglas, on va faire ceci, cela.
Ouais.
Trump, rien. Il faut que l'économie redémarre, vous savez. Ben oui, mais tu vas faire quoi, là, exactement? Et ça, j'ai trouvé que Biden, là-dessus, était beaucoup plus concret que Trump.
Ouais.
Il a sorti sa cassette, là, en général. Mais tu sais, juste sur la parole.
Non, excuse-moi, il y a pas de sorte. Excuse-moi, là. Vous laïssez tellement Trump, là, vous tous, là, les analystes, là. Non, mais des fois, donnez-lui les points qu'il compte, au moins, là. Soyez. Non, mais sérieusement, là. Tu sais, à un moment donné, il a dit à Joe Biden, ça fait 47 ans que t'es en politique. T'as été 8 ans vice-président. Pourquoi tu l'as pas fait? Tout ce que tu dis à soir, là, pourquoi tu l'as pas déjà fait?
Mais... Il a patiné pendant 2-3 fois, chaque fois qu'il lui a dit ça. Puis à la fin, il a trouvé la réponse. Parce que évidemment, à 77 ans, ça peut prendre du temps.
Mais
il l'a trouvé, à la fin, il a dit « Ah, le Congrès était républicain !»
Ben oui,
c'est vrai, le Congrès était républicain, c'est pour ça que ça l'a freiné tout le temps. Mais tu sais, au lieu de dire, écoutez, on a fait ce qu'on a pu, mais le Congrès était républicain, telle loi les républicains ont voté contre, telle loi
ben
ils
oui.
ont voté contre,
ben
et puis je n'étais que vice-président. Tu sais, je devais
mais
là,
ça...
de ceci.
Mais s'il dit ça, il blâme Barack Obama, qui a pas fait la job. Sous Barack Obama, il y a des Noirs américains qui ont été tués par des policiers.
Bien sûr.
Ben oui, puis ça, je suis désolé, mais c'est vrai. Et quand Donald Trump demande à Joe Biden...
Barack Obama puis Biden ont jamais fait l'apologie. Tu sais, je veux dire, Biden a fait quasiment l'apologie des gens qui étaient des suprémacistes blancs.
Non, Trump...
Mais Obama et Biden ont fait ça.
Trump a fait ça, là. T'as dit Biden, mais...
Trump.
Mais tu sais, quand Donald Trump demande à Joe Biden qui a construit les cages dans lesquelles on a mis les enfants quand on les séparait à la frontière.
Puis là, au lieu de dire oui, mais ces cages-là, c'était transitoire, ils pouvaient passer 24 heures, 72 au max là-dedans, vous les avez enfermés là-dedans pendant des mois. C'était ça la réponse. Avez séparé les parents et les enfants, ce qu'on ne faisait pas. Au lieu de répondre ça, qui était la vraie réponse, je pense qu'il y a eu une espèce de rire gêné là-dessus, puis il a regardé. Ben oui, mais tu sais, réponds Biden,
ben oui. quelque
chose.
Ben oui, il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire là.
Il n'y a pas perdu de points, mais il n'y en a pas gagné tellement, je pense. Non plus. Moi, j'ai préféré Biden parce que je l'ai trouvé plus présidentiel à certains endroits. Par exemple, tu sais, il a répété 2-3 fois, écoute, là, c'est pas une question d'État rouge, d'État bleu, c'est pas une question de division entre républicains et conservateurs et démocrates. Ce sont tous des Américains et moi, je serai le président de tous les Américains.
Mais ça, c'est des phrases qu'on lui a écrites. Il est probable de les penser lui-même. C'est des phrases qu'on lui a écrites. Il y en a sorti 2-3 de même, là. Là, il s'en est souvenu, puis il y a eu un moment pour la dire. Oui, il l'a dit 2 fois d'ailleurs cette phrase-là. Là.
Oui,
c'est pas les Américains d'État rouge ou bleu.
Parce qu'il sait que ça porte.
Mais
tu sais, c'est comme quand Trump, il a été faible là-dessus au début. Tu as essayé de cerner sur sa famille et l'argent dont sa famille profitait.
Il riait.
Puis tu dis, écoute, parce que c'est vrai. C'est vrai, il n'y a aucune preuve que Biden en a personnellement profité, qu'il a même trempé dans quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est de la corruption passive, ça. Ouais. Et puis il aurait peut-être dû dire, écoute, là, c'est évident. Il n'y a pas eu de pression, remarque, il n'y a rien eu là-dessus, mais tu sais, il a finalement fini par dire, oui, mais tout ça, c'est de la propagande russe, quand on m'accuse d'être corrompu. 54 directeurs, agents de renseignement, etc., ont dit que c'était, que ça marchait pas. Ça, il aurait dû le dire dès le départ.
Ouais.
Mais encore là, il a traîné, il a fini par le dire.
Le doute est installé, Loïc, là.
Exactement.
Mmh. Et ça sent la job de Trump. Ouais.
Le doute est installé là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis Biden a fait une grosse gaffe en parlant de l'arrêt de subventionner l'industrie pétrolière. Pas que je ne sois pas d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est peut-être pas la première chose à dire. C'était même pas. Tu sais,
surtout quand
même
c'est...
pas dit. Vas-tu l'arrêter de le faire? Non. Il a sorti ça comme ça, pouf, de son chapeau.
Ouais.
Puis là, au Texas, en Ohio, etc. Là, t'as des gens qui se sont reculés sur leur chaise puis qui se sont dit, ah bon, est-ce que je vais perdre mon emploi?
Ouais.
Bêtement comme ça.
Ouais, puis tu sais, il s'est contredit, Joe Biden, là. Il est allé en Pennsylvanie, puis il a dit, il n'y aura pas de fracture, il va en avoir la fracturation, on va continuer à l'exploiter. Puis là, il va sur la campagne nationale, puis il dit, non, on va arrêter ça.
Oui, et encore là, à la fin du débat, il a dit, en fait, j'ai dit sur les terres fédérales, et là-dessus, sur les terres fédérales, il n'y en aura pas. Ben, s'il avait dit ça au départ, ça aurait... éviter que Trump fasse du millage pendant tout le débat là-dessus. Et je pense que c'est un peu ça le débat. C'est un débat d'abord beaucoup plus vigoureux, mais on a entendu
un certain
nombre de choses.
Non,
c'est intéressant.
Ouais, ouais.
Il y a des endroits où moi je vais te dire ça, où j'aurais aimé qu'ils aillent vraiment plus loin parce que c'est des questions vraiment cruciales.
Ouais.
Mais en général, c'était ça. Biden, c'était trop tard. C'était juste, il était après. C'est 5 minutes après. Ben, le train est passé.
En même temps, là, il y a 48 millions d'Américains qui ont déjà voté.
Oui.
Alors que Trump ait scoré hier ou pas, je suis pas sûr que ça donne grand chose et que Joe Biden aussi là il a compté quelques bons points parce que Trump est faible sur les finances sur la COVID-19. Trump est complètement affaibli et Joe Biden a quand même donné une approche face à la COVID-19 en disant qu'il y a plus de 200 000 morts américains, tu sais, c'est pas vrai.
Trump se réfère toujours à Lincoln en voulant dire, tu sais, c'est moi le président le moins raciste après Lincoln. Je te dis, un instant, là, Abraham Lincoln, il a fait des déclarations hyper racistes, etc., puis il en a donné quelques-unes. Soit ça, c'était un bon coup de Biden. Il a pris par cœur, tu me diras, c'est certain. Mais c'était un bon coup de Biden aussi, là-dessus. Mais là où moi, j'ai moins aimé ça, ben, j'aurais vraiment aimé savoir ce qui arrivait plus. À mon avis, c'est la première fois que Trump dit aussi clairement que Obama lui a dit qu'il y aurait une guerre nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis. Bon, est-ce que c'est vrai, ça, je ne sais pas. Parce que Trump ment comme il respire, c'est peut-être pas du tout ce que Obama a dit. Mais la question est, qu'est-ce que vous allez faire, M. Biden, contre la Corée du Nord? Qu'est-ce que vous faites avec la Corée du Nord? Puis là, l'animatrice a été faible là-dessus, parce que ça, c'est un enjeu extrêmement important, puis on ne sait pas. Et c'est resté là, on n'est pas sur un autre sujet.
Le reste, la journaliste a été vraiment très bonne de NBC. Là. Je trouve qu'elle a contrôlé tout le monde, puis on a entendu des questions et des réponses, puis elle a même contrôlé Trump, qui s'est calmé le gros nerf. Puis ça a fait du bien.
C'était un beau débat pour ça, puis Trump devait être plus calme. C'était un beau débat pour ça, mais moi j'aurais aimé qu'elle creuse sur certains sujets, ça aurait valu la peine. Cela étant dit, comme tu dis, je suis parfaitement d'accord avec toi, ça changera pas les intentions de vote, puis c'est pour les gens qui sont des partisans de Biden. Ce qui est très encourageant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis voter. Et on sait que dans les votes par anticipation et des votes par la poste, il y a 2/3 des gens qui votent pour les démocrates et 1/3 pour les républicains. Donc ça augure mal pour les républicains. Et il va falloir voir ce qui va arriver. Ça semble montrer que les gens veulent aller voter plus que d'habitude. Et ça signifie que probablement les jeunes vont voter plus que d'habitude. Les gens qui ne vont pas voter normalement vont voter plus que d'habitude. Qui sont-ils, ces gens qui vont voter plus que d'habitude? Moi, j'aime à croire que ce sont des gens qui vont voter plus en faveur de Biden, qui ont été choqués. On verra. On le verra là-dessus.
Et pendant ce temps, en Chine...
Pendant ce temps, en Chine, Xi Jinping est monté sur ses grands chevaux. Il monte souvent sur ses grands chevaux ces temps-ci, mais il a adopté vraiment un ton très, très belliqueux. Il a célébré le 70e anniversaire de l'entrée en guerre de la Chine auprès de la Corée du Nord. avec la Corée du Nord.
Okay.
Et ça, on se souviendra, c'est la guerre de Corée en 1950.
Ouais.
Les Américains, c'est Kim Jong-un, enfin, c'est les Nord-Coréens qui ont attaqué le Sud par surprise. C'est là où étaient toutes les industries. La Corée du Nord, c'est là où était l'armée. C'est eux qui étaient très forts. La Corée du Sud, c'était rien du tout. Ils sont rentrés. Ils ont presque conquis entièrement toute la Corée du Sud jusqu'à ce que les Américains arrivent en guerre avec les Alliés, en fait. C'est un peu plus compliqué que ça, mais les Américains et les Alliés ont pris toute la Corée. Ils sont montés jusqu'à la frontière chinoise. Puis ils ont fait des incursions en territoire chinois. Et les Chinois ont eu peur à ce moment-là. Ils ont envoyé ce qu'ils ont appelé des volontaires, 700 000 personnes, qui étaient loin d'être des volontaires. En fait, c'était les restes de l'ancienne armée de Chiang Kai-shek dont on ne voulait plus. C'était vraiment de la chair à canon. Et vague après vague, après vague, après vague, les Chinois ont avancé et ils ont divisé la Corée du Nord au 38e parallèle en deux, à peu près. Ils sont revenus à peu près là où était l'ancienne frontière. Et Xi Jinping a dit « Hey, ça, c'est une victoire. » Non, c'est pas une victoire, c'est un match nul. Mais un match nul en 1950 contre les Américains qui avaient la bombe atomique, etc., c'est gigantesque ce que les Chinois ont fait là. Et c'était ça le signe. Pourquoi est-ce qu'il fait ça maintenant? Parce que les Américains sont en train de bâtir une coalition contre la Chine. On en a parlé à plusieurs reprises avec l'Inde, le Japon, même le Vietnam est là-dedans. Bien sûr, les Chinois, si tu veux, se sont mérités ça avec leur diplomatie très agressive et très malhabile dans la région. Mais Xi Jinping a surtout déclaré qu'il allait renforcer encore davantage l'armée chinoise et qu'il allait accélérer donc la militarisation de la Chine, ce qui est très mauvais signe, évidemment, dans les circonstances actuelles. Mais tu vois bien où on s'en va avec ça. On s'en va vers vraiment une très forte militarisation en Asie de l'Est. Et donc, la Chine va devenir de plus en plus puissante militairement. Elle est déjà la deuxième puissance au monde. Dans très peu de temps, elle va vraiment complètement rivaliser avec les États-Unis.
Bon, et avant qu'on se quitte, Loïc, ce qui se passe à Venise, c'est intéressant.
Ben, à Venise, il y a eu des gros problèmes pendant la dernière décennie à peu près, parce que d'immenses bateaux de croisière qui venaient dans la lagune de Venise, ça polluait la lagune, ça polluait Venise, qui est une ville magnifique, mais tu sais, c'est un bateau à rien à faire là, c'est des bateaux qui font je sais pas combien d'étages de haut, qui font l'équivalent de
5000 passagers, genre.
Qui débarque 5000 passagers aussi à la fois, c'est pas plus, ça envahit les rues, et puis ils repartent une demi-heure après. Et ça gâche tout, mais ils se suivent les uns après les autres. Et donc, les Vénitiens en ont un peu marre, les Italiens aussi. Et donc, on est en train de discuter de la possibilité vraiment d'interdire aux bateaux de croisière de revenir dans la lagune à Venise. Ils accosteraient à peu près 90 kilomètres plus loin et ils viendraient, les touristes viendraient en autobus jusqu'à Venise. Et cet été, il n'y en aura pas de ces bateaux de croisière. Puis ça se pourrait bien que ce soit finalement complètement interdit d'avoir des bateaux de croisière à Venise dans 2 ans. Il y a évidemment quelques personnes qui sont pas contentes, les bagagistes, les gens qui faisaient beaucoup de commerce autour des bateaux de croisière. C'est quand même 6000 personnes, mais on espère qu'on va les reconvertir. Et moi, je trouve que c'est une excellente chose parce que c'est du tourisme de masse. Tu sais, c'est des gens qui sont à la queue leu-leu, qui viennent se prendre des selfies devant les ou des égo-portraits devant les
C'est très
monuments.
Polluant, c'est très, très polluant.
Écoute, on le voit à Québec. Québec, dans la Basse-Ville, c'est détestable.
Ouais.
Ils sont en train de tuer complètement la vieille ville de Québec. Ce tourisme de masse, il y a un instant. Là,
et les gens qui travaillent sur les bateaux de croisière travaillent au salaire minimum. C'est souvent des Philippins qui sont maltraités, qui n'ont pas de congé, qui sont traités comme des chiens. Vraiment, c'est une industrie, là, les bateaux de croisière. C'est moindrement que, je vais citer Lucie Laurier, là, faites vos recherches, mais les bateaux de croisière, là, c'est une méchante industrie polluante avec des mauvaises conditions de travail et aussi sur lesquelles il y a des crimes qui sont commis, mais il n'y a pas de police qui applique la loi parce qu'ils sont souvent en eau internationale. C'est vraiment tout un sujet à aborder. On le fera une bonne fois, Loïc.
Ça me fera plaisir de faire ça, mais je pense que la pandémie, c'est l'occasion de repenser le tourisme de masse puis de le remplacer par autre chose.
Ben
c'est le temps-là de le faire.
Loïc Tassé, merci. On se reparle lundi. Salut.
À lundi.
Bonne fin de semaine.